Lizzie présente. Ne le dis à personne. De Harlan Coben. Lu par Antoine Doignon. À la mémoire de ma nièce tendrement chérie, Gabby Coben, 1997-2000. Notre merveilleuse petite Mishka. Petit renard a dit: mais quand on sera mort, que va-t-il se passer? M'aimeras-tu toujours? Est-ce que l'amour, ça reste? Sa maman l'a bercé contre elle, tandis qu'il regardait la nuit, la lune dans l'obscurité, les étoiles qui brillaient. Regarde, petit renard, les étoiles, comme elles scintillent et étincellent. Certaines sont mortes depuis longtemps, mais elles continuent de briller dans le ciel du soir. Car vois-tu, petit renard, l'amour comme les étoiles ne meurt jamais. Debbie Gliori, je t'aimerai toujours, quoi qu'il arrive. Il aurait dû y avoir un souffle funeste dans l'air, ou un froid à vous glacer la moelle des os. Quelque chose. Une mélodie éthérée que seule Elisabeth et moi aurions pu entendre. Un sentiment de tension. Quelques classiques prémonitions. Il y a des malheurs quasi prévisibles. Ce qui est arrivé à mes parents, par exemple. Et puis d'autres moments sombres. Des moments de violence soudaine qui changent irrémédiablement le cours d'une existence. Il y a eu ma vie avant le drame. Et il y a ma vie actuelle. Les deux, hélas, n'ont plus grand-chose en commun. Elisabeth se taisait pendant le trajet, mais cela n'avait rien de surprenant. Même gamine, il lui arrivait de sombrer dans d'imprévisibles accès de mélancolie. Murée dans son silence, elle se laissait aller à la contemplation ou à la trouille. Je ne savais jamais. Ça devait faire partie du mystère, je suppose. Mais là, pour la première fois, j'ai senti le fossé entre nous. Notre couple avait survécu à tant d'épreuves. Survivrait-il à la vérité? Plus exactement, au mensonge par omission. La climatisation bourdonnait doucement dans l'habitacle bleu. Dehors, il faisait une chaleur moite, typique du mois d'août. On a traversé le pont Milford au-dessus de la Delaware et on a été accueillis en Pennsylvanie par un sympathique employé du péage. Une quinzaine de kilomètres plus loin, j'ai repéré la borne sur laquelle on lisait « Lac Charmain, propriété privée ». J'ai bifurqué sur le chemin de terre. Les pneus s'enfonçaient dans le sol, soulevant un nuage de poussière comme en plein désert. Elisabeth a éteint l'autoradio. Du coin de l'œil, j'ai remarqué qu'elle était en train d'étudier mon profil. Je me suis demandé ce qu'elle voyait, et mon cœur s'est mis à palpiter. Sur notre droite, deux daims grignotaient des feuilles. Ils se sont arrêtés, nous ont regardés, et constatant qu'on ne leur voulait pas de mal, ont repris leur mastication. Je continuais à rouler quand soudain le lac a surgi devant nous. Le soleil agonisant striait le ciel d'orange et de violet. Les cimes des arbres semblaient être en feu. « Je n'en reviens pas qu'on remette ça tous les ans », et je dis. « C'est toi qui as commencé ?»« Ouais, quand j'avais 12 ans. » Elisabeth a esquissé un sourire. Elle souriait rarement, mais quand ça lui arrivait, waouh, je le prenais en plein cœur. « C'est romantique », a-t-elle déclaré. « Débile, oui. J'aime les choses romantiques. Tu aimes les choses débiles. Chaque fois qu'on vient ici, tu t'envoies en l'air. On m'appelle Monsieur Fleurbleu. » Elle a ri et m'a pris la main. « Allez, venez, Monsieur Fleurbleu. Le jour tombe. » Le lac Charmain. C'est mon grand-père qui avait trouvé ce nom-là, aux grandes dames de ma grand-mère. Elle aurait aimé qu'il lui donne son nom à elle. Elle s'appelait Bertha. Le lac Bertha. Grand-père ne voulait pas en entendre parler. 2 points pour grand-père. Il y a 50 ans et des poussières, le lac Charmaine avait abrité une colo pour gosses de riches. Le propriétaire avait fait faillite et grand-père avait racheté le plan d'eau et le terrain environnant pour une bouchée de pain. Il avait retapé la maison du directeur et abattu la plupart des constructions qui bordaient le lac. Mais au-delà, dans les bois, où plus personne ne s'aventurait de toute façon, il avait laissé pourrir les dortoirs des mômes. Ma sœur, Linda et moi, on partait les explorer, fouillant les ruines à la recherche d'un trésor, jouant à cache-cache, bravant le croque-mitaine, qui, nous en étions sûrs, nous épiait et guettait le moment propice. Elisabeth se joignait rarement à nous. Elle aimait que chaque chose soit à sa place. Se cacher lui faisait peur. En descendant de voiture, j'ai entendu les fantômes. Plein de fantômes. Trop. Qui tournoyaient et se disputaient mon attention. C'est celui de mon père qui a gagné. Le lac était immobile, lisse comme un miroir, mais je jure que j'ai perçu le hurlement triomphal de papa tandis qu'il se catapultait du ponton, les genoux contre la poitrine, le sourire jusqu'aux oreilles, faisant naître une gerbe d'eau pareille à un véritable raz-de-marée aux yeux de son fils unique. Papa aimait bien atterrir à côté du radeau où ma mère prenait ses bains de soleil. Elle le réprimandait, sans pouvoir s'empêcher de rire. J'ai cligné des paupières, les images se sont évanouies. Je me suis rappelé cependant comment le cri, les rires, le bruit du plongeon se réverbéraient dans le silence de notre lac, et je me suis demandé si l'écho de ces bruits et de ces rires-là avait vraiment disparu. Si quelque part dans les bois les joyeux ululements de mon père ne continuaient pas à ricocher d'arbre en arbre. C'était bête comme idée. Mais que voulez-vous ? Les souvenirs, ça fait mal. Surtout les bons. Ça va, Beck ? A demandé Elisabeth. Je me suis tourné vers elle. Je pourrais m'envoyer en l'air, hein ? Vieux pervers, va. Elle s'est engagée sur le sentier, la tête haute, le dos droit. Un instant, je l'ai suivie des yeux, repensant à la première fois que j'avais vu cette démarche-là. J'avais 7 ans, et je m'apprêtais à enfourcher mon vélo, celui avec la selle profilée et la décalco de Batman, pour dévaler Goodhart Road. Escarpée, balayée par le vent, cette rue était le parcours idéal pour un cycliste chevronné. Je suis descendu sans les mains, aussi cool et décontracté qu'on peut l'être à 7 ans. Le vent rabattait mes cheveux en arrière et me faisait larmoyer. J'ai aperçu le camion de déménagement devant l'ancienne maison des Ruskin. Me suis retourné et pan. Elle était là, mon Elisabeth. Tellement posée malgré ses 7 ans, avec sa colonne vertébrale en titane, ses sandales à bride, son bracelet de perles multicolore et ses innombrables taches de rousseur. Nous avons fait connaissance 15 jours plus tard, dans la classe de CE1 de Mademoiselle Sobel. Et à partir de ce moment-là, s'il vous plaît, ne faites pas mine de vomir quand je dis ça. On ne s'est plus quitté. Les adultes trouvaient notre relation à la fois attendrissante et malsaine, tandis que notre amitié de môme avec ses 400 coups se muait en une amourette d'adolescent, et les hormones aidant, en flirt de collégien. Tout le monde croyait que ça allait nous passer. Même nous. On était du genre plutôt éveillé, surtout Elisabeth. Brillants élèves, rationnels jusque dans cet irrationnel amour dont nous mesurions les aléas. Et nous nous retrouvions à 25 ans, mariés depuis 7 mois, à l'endroit même où à l'âge de 12 ans nous avions échangé notre premier baiser. Lamentable, je sais. On s'effrayait un passage entre les branchages, dans une moiteur à couper au couteau. L'odeur résineuse des pins nous prenait à la gorge. Nous avancions péniblement dans les hautes herbes. Moustiques et consorts jaillissaient en une nuée bourdonnante dans notre sillage. Les arbres jetaient de longues ombres qu'on pouvait interpréter à sa guise, comme quand on essaie de déterminer la forme d'un nuage ou celle d'une tache d'encre dans le test de Rorschach. On a quitté le sentier pour s'enfoncer dans les fourrés. Elisabeth ouvrait la marche. Je suivais à 2 pas, tout un symbole maintenant que j'y pense. J'ai toujours cru que rien ne pouvait nous séparer. Notre histoire l'avait prouvé, non ? Mais à cet instant, plus que jamais, Le sentiment de culpabilité semblait l'éloigner de moi.